Les matins de France Culture, Hervé Gardette.
Si on m'avait dit qu'un jour, je recevrais au bureau un livre entièrement consacré à la coquille Saint-Jacques, que je le lirais et que j'en recommanderais la lecture ensuite à mon entourage, je crois que je ne l'aurais pas cru. Non pas que la Saint-Jacques m'indiffère, légèrement rôtie, c'est un délice, mais disons que sa vie intime me laisse assez indifférent. On a pourtant tout intérêt à s'intéresser à cet animal. C'est une mine d'informations sur notre environnement et sur les perturbations qu'il subit. Et c'est votre sujet. Laurent Chauveau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, biologiste, écologue, spécialiste des écosystèmes côtiers et vous publiez La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan aux éditions des Équateurs. Alors bien que nous soyons le jour de Noël, on ne va pas parler de gastronomie aujourd'hui, mais bien de l'état de la connaissance sur la coquille Saint-Jacques qui ne vaut pas seulement pour elle, mais pour ce qu'elle nous renseigne de l'environnement en général. Première question, moi j'aimerais vous demander... Imaginons que quelqu'un n'ait jamais vu de sa vie une coquille Saint-Jacques. Comment est-ce que vous la décririez ?
La façon peut-être la plus simple, c'est d'essayer d'imaginer que c'est elle qui donne la forme aux madeleines de Proust. Ouais, c'est un animal qui a une forme un peu étonnante. La valve droite d'une coquille Saint-Jacques a une symétrie parfaite, une couleur fauve à l'extérieur et complètement blanche, immaculée à l'intérieur, et une symétrie... quasiment parfaite, qui est associée à des stries radiaires. Ça veut dire que cet animal a des rayons qui se présentent comme les rayons du soleil, qui s'écartent et s'épanouissent vers l'extérieur. Voilà. Et c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que l'esthétique propre de l'animal en a fait quelque chose de reconnaissable dès le néolithique. Et dès le néolithique, l'homme utilise cet animal comme une parure, ou comme un bijou, ou alors comme le symbole d'une supériorité dans une tribu. Ouais, le chef était enterré en Bretagne, l'homme de Téviec enterrait ses morts avec des coquilles Saint-Jacques quand c'était le chef qui était enterré.
Et on la retrouve même d'ailleurs dans la Vénus de Botticelli, hein, par exemple, pour évoquer une de ces interprétations, disons, par l'art. Vous parliez de Madeleine de Proust. Comment est-ce que vous, pour vous, la coquille Saint-Jacques est devenue votre Madeleine ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on devient, à un moment donné, spécialiste de la coquille Saint-Jacques ?
D'abord, il faut être amoureux de la nature. D'abord, avoir une relation à la nature peut-être un peu particulière. Puis, découvrir la mer. Je vais vous raconter mon histoire, si vous voulez, et finalement commencer à plonger, dans mon cas, et sous l'eau découvrir des coquilles Saint-Jacques avec des comportements un peu étonnants. C'est un animal curieux qui a une aptitude à nager, donc il n'y a pas beaucoup de bivalves qui nagent, et cette nage-là intrigue. Puis, dans mon histoire, on me propose un doctorat et des études de doctorat centrées sur la coquille Saint-Jacques, et j'ai passé 3 ans en thèse à étudier la biologie des animaux, et ça s'appelle le pied à l'étrier et le début d'une espèce d'aventure qui va durer 30 ans. Un peu vu par ce livre, peut-être de façon 30 ans un peu obsessionnelle, centrée sur la coquille Saint-Jacques, mais en fait, je crois avoir décliné cet animal en termes de recherche scientifique pour que ça ne soit pas du tout ennuyeux.
Alors ça ne l'est pas en effet. Il y a notamment alors un passage moi, que j'ai beaucoup aimé où vous décrivez la nage de la coquille Saint-Jacques. Alors c'est une nage un peu particulière parce que c'est une course-poursuite. Il y a une étoile de mer qui va essayer de l'attraper. La coquille Saint-Jacques s'enfuit et vous écrivez ceci. L'étoile de mer se déplace lentement sur sa myriade de bras aux ventouses collantes. Au moment où elle s'approche de la coquille, celle-ci se lance paniquée dans une nage frénétique comme un morceau d'Eritamix Souko, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de musique dans votre livre. Puis le mouvement de la coquille devient ondulatoire et organisé. Vous la voyez s'élever puis se poser enfin sur le flanc. Elle creuse le sable en remuant ses valves, debout sur sa tranche. Ça, c'est quelque chose que vous avez observé au gré de vos plongées un peu partout à la surface du globe. Enfin, pas à la surface du globe d'ailleurs, plutôt dans les profondeurs des mers.
Oui, voilà, c'est cette danse frénétique, puis cette chute comme une feuille qui descend d'un arbre à l'automne. Ces deux mouvements-là sont facilement observables si vous vous donnez la peine de mettre des bouteilles de plongée et de plonger sur des fonds de sable en Bretagne entre 0 et pas 0, mais entre 5 mètres et 30 mètres de profondeur. Cette activité de nage-là, vous pouvez la provoquer en prenant dans votre plongée une étoile de mer dans votre main. Vous posez une étoile de mer à côté d'une coquille Saint-Jacques, vous attendez 30 secondes ou une minute et cet animal commence à nager parce qu'il a la propriété ou la capacité de sentir l'odeur de cette étoile de mer. Et c'est l'odeur qui la renseigne sur la présence du prédateur qui va la manger. Et c'est bien une réaction de fuite face à un prédateur, comme une gazelle va s'enfuir à l'odeur ou à la vue d'un lion.
Dans votre livre, Laurent Chauveau, donc, vous racontez comment vous en êtes venu à étudier la coquille Saint-Jacques en plongeant du côté de Brest. Vous avez ensuite fait une thèse sur l'écologie de la coquille Saint-Jacques, c'était à la faculté des sciences de Brest. Est-ce que, quand vous faites votre thèse, vous aviez une idée précise de ce que vous cherchiez, ou bien ce que vous avez trouvé, vous l'avez trouvé, si ce n'est par hasard, mais en tout cas peut-être en laissant le plus ouvert possible votre capacité à observer justement ce monde-là, ce monde sous-marin?
C'est ça, faut essayer d'imaginer qu'on m'offre un cadre d'études où on est chargé d'étudier le cycle vital d'une coquille Saint-Jacques depuis sa production gonadique jusqu'au stade juvénile, juste avant le stade adulte. Et c'est dans ce cadre de surveillance où on imagine que de façon hebdomadaire, on va aller en rade de Brest, plonger, récupérer de l'eau, qualifier la qualité de cette eau et mesurer des paramètres environnementaux et regarder comment cet animal répond à ces paramètres environnementaux. Là, quand je dis ça, en étant le plus large possible, de façon complètement fortuite, on a découvert que cette coquille Saint-Jacques fabriquait des marques temporelles à l'échelle journalière. Et cette découverte-là, elle va alimenter le reste de ma carrière, puisque un, c'était pas programmé, deux, c'était non programmable. C'est le hasard qui a fait de la nature, et le fait qu'on soit effectivement en position de veille ou en position d'écoute ou en position de découverte qui nous a fait basculer vers d'un plat festif à un outil scientifique assez puissant.
Alors la coquille Saint-Jacques, elle marque le temps qui passe d'abord sur elle, c'est-à-dire qu'on peut assez facilement, enfin pour peu qu'on ait l'œil un minimum exercé, être capable de dater, de dire son âge. Mais ce qui est le plus important, sans doute, Laurent Chauveau, c'est qu'elle marque aussi le temps qui passe dans son environnement. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir renseigner sur certains épisodes météo qui vont expliquer, par exemple, le fait qu'à certaines périodes, elles seront plus ou moins nombreuses dans les lieux que vous observez.
Oui, donc une coquille Saint-Jacques, c'est d'abord l'équivalent d'un arbre dans la mer. Ça dépose des cernes hivernales qui vous permettent de donner son âge. La découverte est sur le fait qu'entre deux cernes hivernales, on trouve des marques journalières. Donc cet animal a la possibilité de se comporter comme un calendrier quand on est scientifique et qu'on la regarde. Donc ce calendrier, il est constitué par son squelette. Des petites vaguelettes apparaissent de façon quotidienne. La distance entre les vagues vous donne la croissance journalière, ce qui est pas rien pour un biologiste, obtenir sur un animal la croissance tous les jours, même si c'est a posteriori, et quand c'est au fond de la mer, entre 20 mètres et 500 mètres de profondeur, c'est une information qui est nouvelle pour la communauté scientifique. Et ensuite, quand on rentre dans la chimie de cette petite vaguelette fabriquée chaque jour, vous avez des informations comme la température de l'eau de mer, ou la vitesse de rotation de la Terre, ou la présence de phytoplancton, ou la présence de toxines de ce phytoplancton, encore plus loin, la présence du pétrole Lerica, ou des métaux lourds que vous utilisez en contrastant quand vous faites une IRM et que vous urinez à l'hôpital et qui se retrouvent en rade de Brest. Vous voyez, ces informations-là sont enregistrées à une échelle journalière. Cet animal, vous devez le considérer comme un livre. Il fabrique une page chaque jour et on a appris à lire ce qui était écrit sur cette page de façon quotidienne, ce qui est écrit a une forme très chimique, mais on s'est transformé en champollion de la coquille Saint-Jacques. On a appris à décrypter des informations chimiques enregistrées tous les jours par une coquille Saint-Jacques sur son environnement.
Alors Champollion, il s'occupait des hiéroglyphes et du temps des pyramides. Ça remonte à très loin. Jusqu'où est-ce qu'on peut remonter justement avec les coquilles Saint-Jacques? C'est-à-dire, est-ce qu'on a suffisamment, je ne sais pas, de fossiles par exemple, qui permettent de savoir qu'à telle époque, il y a eu tels épisodes climatiques? Est-ce qu'elle nous renseigne aussi là-dessus, Laurent Chauveau?
Alors, oui, elle est là depuis 25 millions d'années. Donc, potentiellement, vous pouvez ouvrir une petite fenêtre temporelle qui va durer 5 ans. Et pendant 5 ans, vous pourrez décrire la température de l'eau de mer tous les jours. Ouais. Ça peut être il y a 6000 ans. Ça peut être, pour répondre à votre question, si c'est un fossile, c'est un peu plus difficile. Mais si c'est une poubelle des moines de l'abbaye de Landévennec, ou si c'est une sépulture en Norvège, ou une sépulture pas loin de la presqu'île de Quiberon, vous récupérez ces coquilles et vous êtes capable de donner, pour quelqu'un du néolithique, la température de l'eau et la température de la baignade de Cro-Magnon. Ouais. Donc ça, c'est réalisable et ça intéresse énormément les archéologues. parce que vous avez des applications sur la sédentarisation de notre espèce. Je m'explique, on peut avoir facilement la date de pêche, grâce à la température, la date de pêche, et donc la date à laquelle un homme avait besoin de manger des fruits de mer ou des mollusques. Ouais. Et c'est probablement lié à l'apparition de la sédentarisation en période de disette. On imagine qu'il va falloir compenser des petites difficultés d'élevage ou des difficultés de récolte pour se rabattre sur des fruits de mer. Donc ça, c'est jouable. Ce qu'on a fait ensuite, c'est se dire, si on est capable de le faire sur une coquille Saint-Jacques qui vit une dizaine d'années, on doit être capable de le faire sur des animaux qui vivent 100 ans. Et il se trouve qu'en France, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des animaux qui vivent 500 ans sous l'eau. Ouais, et qui vous nous renseigne sur les 500 dernières années, sur la température de l'eau de mer, je me répète, et sur la contamination. Ouais. Et on a associé des études de coquille Saint-Jacques à des études sur plutôt des palourdes ou un animal qui a un joli nom qui s'appelle Artica islandica, qui est l'animal qui vit le plus vieux sur notre terre. Il est à Saint-Pierre-et-Miquelon et il vit 500 ans.
Est-ce que ça veut dire que vous travaillez aujourd'hui, enfin, ou aujourd'hui, peut-être d'ailleurs depuis quelques années, avec notamment les climatologues? Et est-ce que les résultats de vos recherches sont cohérents, disons, avec ce qui est dit aujourd'hui par les climatologues sur la question du réchauffement climatique, Laurent Chauveau?
Alors, un, c'est cohérent. Et deux, le fait que cette famille de coquilles Saint-Jacques, ou alors ce qu'on appelle les pectinidés, les pétoncles et les coquilles Saint-Jacques réunis, vivent dans toutes les eaux du globe, ouais, de la zone très littorale jusqu'au fond abyssaux et de la Bretagne jusqu'au pôle, ça nous permet d'aller étudier, de fournir des informations sur la température de l'eau de mer et l'évolution de la salinité ou l'évolution de l'état de la mer, si vous voulez. Et de façon un peu plus étonnante, on s'oriente vers des informations sur ce qui a déjà été vécu par ces invertébrés en termes de changement de fonctionnement d'écosystème. Parce que changer la température, ou au pôle changer l'état de la glace, son épaisseur, sa saisonnalité, c'est changer les conditions de vie d'un invertébré. Et on a déjà la preuve que des animaux à 600 mètres de profondeur, en plein Labrador ou en pleine baie de Baffin, à 600 mètres de fond, ces animaux ont déjà des conditions de vie qui ont drastiquement changé.
Les conditions de vie, justement, aujourd'hui, des coquilles Saint-Jacques, Laurent Chauveau, est-ce que c'est une espèce, c'est un animal qui subit la surpêche? Est-ce que c'est un animal qui subit aussi les effets de l'acidification des océans, comme l'a évoqué le GIEC dans un de ses derniers rapports?
Alors, s'il y a des problèmes d'acidification, c'est au stade larvaire, des animaux, enfin, au stade le plus microscopique que l'on puisse faire sur la coquille Saint-Jacques, et c'est pas encore démontré. Ensuite, Eric Fouché ou Spiros Fifas de l'Ifremer, qui sont en charge de la gestion des stocks de cette coquille Saint-Jacques en France, nous apprennent que oui, il y a quelques zones qui sont un peu surpêchées, mais globalement, ce stock va plutôt pas mal et il est plutôt pas mal géré. Alors, reste à voir ce qui va se passer, interroger Eric Fouché pour savoir ce qui va se passer avec le Brexit et la pénétration de bateaux anglais dans les eaux françaises. Ça, c'est autre chose et c'est pas exactement mon métier. Mais dans ce que je vois, c'est quand même il y a un stock conséquent de coquilles Saint-Jacques en France. Le truc, c'est qu'on en mange des quantités astronomiques. Oui, on est complètement, notre comportement est gargantuesque vis-à-vis de cet animal. Et on en apporte des quantités dingues. Et on ramène d'Islande, on ramène du Chili, ou on ramène de Chine ou d'Asie des quantités folles de coquilles Saint-Jacques. Ouais.
Si ce stock en France n'est peut-être pas dans un trop mauvais état, c'est peut-être aussi parce que la coquille Saint-Jacques, on ne se contente plus de la pêcher, mais on la récolte. Vous racontez dans votre livre, Laurent Chauveau, qu'il y a eu une révolution. Alors vous comparez à la révolution du néolithique avec l'apparition de l'agriculture et de l'élevage. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait... évidemment, c'est pas le bon terme, mais presque faire pousser des coquilles Saint-Jacques.
On sait ça depuis, alors de façon très précise, depuis une vingtaine d'années, mais on a commencé ça, et c'est pas moi, hein, Albert Lucas a commencé ça à l'Université de Bretagne Occidentale, et avec quelques pêcheurs éclairés, vraiment extraordinaires, ont commencé à utiliser les connaissances et à améliorer les connaissances sur le cycle vital d'une coquille Saint-Jacques pour lancer une production artificielle et l'aquaculture de cet animal. Et je répète, j'insiste, c'est une vraie révolution que de proposer un système qui produisait une semence, on n'est pas loin de l'agriculture, hein, ou une écloserie, ou des techniques de la zootechnie nous a permis de produire des animaux de 1 cm. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Et c'est cette semence-là qui est vendue, entre guillemets, à une communauté de pêcheurs qui va semer ces coquilles Saint-Jacques et les récolter 3 ans plus tard. Vous voyez, on n'est pas très très loin d'un modèle agricole et plus d'un modèle qui, où on tape dans un stock sauvage. Et ça induit, d'un point de vue mentalité et d'un point de vue gestion, une vraie révolution. Et ça a été une force et un exemple à l'échelle européenne, puisque les Irlandais, les Écossais, les Norvégiens ont tenté d'imiter cette activité pionnière brestoise.
Ça veut dire, si je comprends bien, Laurent Chauveau, que c'est grâce... ou à cause d'ailleurs, parce que peut-être que l'aquaculture est quelque chose qui peut faire un débat, mais en tout cas, c'est avec les travaux qui ont été réalisés sur la coquille Saint-Jacques que l'aquaculture s'est développée ensuite. C'est cette temporalité-là qui est...
Oui, clairement, le mariage entre une université, une écloserie, un comité local des pêches et l'Ifremer a permis l'émergence de cette production artificielle de semences de coquille Saint-Jacques, de semis de coquille Saint-Jacques, et a permis de faire apparaître, évidemment, des connaissances qui sont le socle de ce qui est écrit dans ce livre, qui nous a permis ensuite de transformer le plat festif des Français en un outil scientifique et en un modèle biologique extrêmement intéressant pour l'écologie côtière.
Je ne sais pas ce que pensent les coquilles Saint-Jacques de cette artificialisation de leur reproduction. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait savoir, alors si ce n'est ce qu'elles pensent, puisque si j'ai bien regardé les schémas de votre livre, Laurent Chauveau, en tout cas, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de système nerveux. Mais en tout cas, ce qu'elles disent, parce que j'ai précisé tout à l'heure qu'il y a beaucoup de musique dans votre livre, il y a aussi la musique des coquilles Saint-Jacques. Elles font, je ne sais pas si des sons, des bruits, je ne sais pas comment on peut le dire. Comment est-ce qu'on peut les décrire? Peut-être d'ailleurs que vous pouvez nous faire comme si vous en étiez une, pour qu'on entende ce son de la coquille Saint-Jacques dont vous parlez dans le livre.
J'ai toujours été un piètre chanteur et imitateur, donc ça va être très difficile. Par contre, je peux vous essayer d'imaginer le bruit d'un évent de baleine, le bruit d'une expiration un peu forcée, en fait, le bruit que fait une coquille Saint-Jacques au moment où elle expulse l'eau entre ses deux valves, est un bruit d'un fluide qui sort d'un volume de façon assez violente. Ouais. Donc ça fait un bruit d'évent. C'est un bruit comme un souffle. Et en fait, le mot souffle est intéressant parce que ce qu'elle fait de façon régulière, c'est bien une ventilation. Elle a besoin de changer l'eau qui baigne sa branchie et elle le fait de façon régulière en fermant assez brutalement ses deux valves. Ce qu'elle fera également encore plus brutalement lorsqu'elle va se mettre à nager. Mais le plus étonnant là-dedans, c'est d'avoir eu l'idée d'enregistrer le son que fait une coquille Saint-Jacques. Et cette idée a émergé parce que on avait conscience que les mouvements d'une coquille Saint-Jacques renseignaient sur la toxicité de l'eau de mer ou sur l'oxygène présent dans l'eau de mer et sur le fait qu'on pouvait utiliser cet animal comme une sentinelle. Et en fait, essayer d'imaginer qu'on va utiliser la coquille Saint-Jacques comme on utilisait les oies au Capitole ou le chien dans une ferme comme un animal qui fait un bruit normal ou anormal, alertant d'un phénomène normal ou anormal dans l'eau de mer en milieu côtier.
D'où le titre de votre livre, Laurent Chauveau, La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan, que vous publiez donc aux éditions des Équateurs. Vous restez avec nous, on se retrouve en deuxième partie. Et nous serons rejoints par l'éthologue Fabienne Delfour, qui publie, elle, aux éditions Tana, Que pensent les daims de Noël? Oser se mettre à la place de l'animal. Nous ferons la foi, nous essaierons en tout cas de voir comment avance la connaissance scientifique sur les animaux, mais aussi quel est l'environnement propre justement au monde animal et en quoi les connaissances nous permettent peut-être de mieux les comprendre et du coup aussi de mieux les protéger. Voilà, on se retrouve après le journal. Je suis sûr que si vous fermez un petit peu les yeux, vous verrez des coquilles Saint-Jacques en train de danser. France Culture, on est un petit peu en retard, il est 8h01.
7h-9h, les matins de France Culture, Hervé Gardette.
Et nous sommes toujours en compagnie de Laurent Chauveau, biologiste qui publie La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan aux éditions des Équateurs. Et puis une deuxième invitée qui nous a rejoint et avec qui vous partagez une passion d'ailleurs, en tout cas une pratique, celle de la plongée sous-marine. Cette invitée, c'est Fabienne Delfour. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éthologue, chercheuse associée au laboratoire d'éthologie expérimentale de l'université Paris 13 et vous publiez « Que pensent les dindes de Noël ? Oser se mettre à la place de l'animal » et c'est aux éditions Tana. Bah, Première question, ça veut dire quoi se mettre à la place de l'animal ?
Ça veut dire changer de perspective et adopter la perspective d'un être qui nous est totalement différent. Donc c'est prendre la position d'un alter, une altérité. Pas un alter ego, une altérité, donc avec une sensorialité différente, des capacités cognitives différentes, et donc qui va mettre l'environnement en signification, mais de manière totalement différente de la nôtre. Donc c'est oublier qu'on est un humain, oublier notre vision très anthropocentrée, et adopter cette position autre.
Alors moi je ne demande pas mieux que d'oublier que je suis un humain, mais comment est-ce qu'on fait, Fabienne Delfour, c'est-à-dire pour essayer justement de se positionner autrement à l'égard alors d'espèces qui, en fonction en plus des espèces, ne vont pas avoir tout à fait le même système biologique et donc qui ne vont pas, penser, si tant est qu'elles pensent toutes, leur environnement de la même manière.
Alors ça peut se faire de manière très triviale et assez basique. On peut se mettre à la place de notre chien et imaginer qu'il a envie ou besoin de manger tel ou tel aliment. Donc ça, c'est au quotidien. Mais après, on peut le faire aussi dans une approche totalement raisonnée. Et là, ça va passer par la compréhension de qui il est, de quelles sont ses capacités sensorielles. Donc il y a besoin de comprendre d'abord vraiment à qui on a affaire. Et après, imaginer quel type de mise en signification il peut mettre en place.
Laurent Chauveau, est-ce que vous, dans le cadre de vos travaux sur la coquille Saint-Jacques, il vous est arrivé d'essayer de vous mettre à la place de cet animal ?
Oui, ça c'est une évidence. J'essaye de... Mais dans un but très égoïste, quand vous êtes en face de quelques graphiques, quelque chose très orthonormé, très mesuré, parfois, vous avez réellement besoin de poser les yeux là où on ne voit rien. Et il faut essayer de se mettre à la place de cet animal, essayer de donner un sens à quelques mesures isotopiques. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de hiéroglyphes et de Champollion. Quand vous êtes en face de ça, il faut essayer de quelques instants s'oublier et rêver autour de cette condition animale. Et surtout, j'ai des difficultés, moi, à me mettre à essayer de comprendre ce qu'est l'environnement direct d'une coquille Saint-Jacques. Ça, c'est très dur. Parce que quand vous êtes humain, vous êtes à l'échelle d'une région. Vous vous dites, voyez, moi, c'est la Bretagne ou l'Atlantique Nord m'intéresse et j'ai des informations là-dessus. C'est là-dessus que, à cette échelle-là, que le changement climatique va avoir lieu. Une coquille Saint-Jacques, elle voit à l'échelle de 20 cm autour d'elle. Et ces transferts d'échelle-là sont une vraie difficulté en science et en recherche fondamentale sur la perception et donc l'enregistrement qu'a une coquille Saint-Jacques sur les variations de son environnement.
Je pense qu'il est plus facile aussi de se mettre à la place d'un grand mammifère. Donc en tant qu'humain, je pense que ça me va être plus facile pour moi de prendre la peau d'un chimpanzé, par exemple, ou d'une baleine à bosse. Mais me mettre à la place d'une coquille Saint-Jacques, bien que j'ai appris beaucoup de choses, donc ça me sera beaucoup plus facile de me mettre à la place d'un coquille Saint-Jacques. Mais je pense qu'il y a ça aussi. Il y a la phylogénèse qui est là, qui est aussi un barrage aussi à cette possibilité d'accéder à l'autre. Donc, entre grands mammifères, c'est plus facile. Mais après, ça peut être plus compliqué.
Il faut peut-être préciser, hein, on l'a dit tout à l'heure, les coquilles Saint-Jacques ont un système nerveux embryonnaire. Effectivement, il n'y a pas d'encéphalisation. On n'est pas comme chez le poulpe avec un début de cerveau. Mais il y a quand même quelques ganglions, il y a des tissus nerveux qui permettent des mouvements organisés comme la nage. C'est quand même pas rien d'être capable d'organiser le mouvement pour pouvoir nager. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, évidemment, sur un oursin, sur une crevette ou sur des animaux plus primitifs, une éponge, là, les notions de système nerveux et de ressenti sont un peu plus ténues. Vous voyez, on a peu de choses pour se raccrocher. Mais on est quand même avec une communauté scientifique qui se méfie là de ces grands principes et qui découvre que finalement, les arbres émettent des sons, que des animaux comme les moutons sont capables d'être copains ou copines au sein d'un troupeau avec de la compassion. Ou... Bon, alors, on fait très attention sur la façon dont on manipule ces concepts-là.
Ouais. Mais je trouve ça très intéressant parce que nos métiers aussi ont évolué par cette technologie. Et on a appris à poser de nouvelles questions au travers de cette technologie. Moi, pendant très longtemps, on a ignoré que les dauphins produisaient des infrasons. Mais tout bêtement, parce qu'on n'a jamais enregistré des infrasons. Donc la connaissance, elle aussi, elle évolue par rapport aussi au monde qui bouge, qui nous apporte cette technologie, qui nous renseigne sur une vision de l'animal qui est tout à fait nouvelle. Et après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le mouvement. Je suis éthologue et moi, ce que j'étudie, c'est le mouvement des animaux. Et au travers des mouvements des animaux, je peux déceler des émotions. Un animal qui a peur, il va être vraiment sur une temporalité très particulière avec des mouvements désynchronisés. Un animal qui est dans un état de bien-être, il y a une synchronie parfaite, une temporalité aussi autre. Donc le mouvement structure la vie des animaux. Et cette étude du mouvement est vraiment fondateur de cette approche vers l'animal.
Les animaux, d'ailleurs, ils vont réagir différemment selon la musique qu'ils vont entendre, Fabienne Delfour ?
Alors, il y a des travaux qui montrent, qui ont été effectués dans des chenils, dans des refuges pour les chiens. Et pour calmer les animaux, on va diffuser des musiques particulières. Donc, la musique a des effets pour apaiser certaines tensions chez les animaux, comme chez les humains, d'ailleurs.
Vous avez rappelé, puis j'ai dit en vous présentant que vous étiez éthologue, vous n'êtes pas simplement éthologue, vous êtes une éthologue constructiviste. Qu'est-ce que c'est qu'une éthologue constructiviste ?
Alors l'éthologie est la science qui étudie le comportement des animaux et des hommes. Et on a plusieurs approches théoriques qui vont pouvoir expliquer le comportement des animaux. Et une approche théorique, c'est le constructivisme. Ce constructivisme est nourri de ce qu'on adore, nous, en France, c'est des pensées philosophiques. Donc le constructivisme est proche de la phénoménologie développée par Merleau-Ponty. Et cette éthologie constructiviste est la seule à imaginer et à concevoir l'animal comme un sujet à part entière. Donc on n'a pas un individu, on n'a pas un être uniquement biologique, on a un animal qui a une vie émotionnelle, une vie mentale, donc qui est capable, et c'est ça l'important, de vivre son existence à la première personne. Et donc, en conséquence, quand on s'intéresse au bien-être animal, approcher l'animal par cette voie de l'éthologie constructiviste nous oblige à considérer non seulement son bien-être physique, mais aussi son bien-être psychologique. Donc, ses besoins fondamentaux de manger, boire, etc., mais aussi le fait d'avoir un certain confort, une qualité de vie. Donc, se préoccuper de la qualité de vie des animaux, c'est vraiment ce qui caractérise cette éthologie constructiviste.
Et c'est ce qui vous conduit à poser la question, puisque c'est le titre de votre livre, « Que pensent les dindes de Noël ?» Alors, sans divulgâcher, comme on dit, le suspense, il faut lire le livre, mais je vous la pose quand même, justement, cette question. Que pensent les dindes de Noël, Fabienne Delfour ?
Alors, a priori, la question elle paraît un peu anodine, ça peut être un peu ridicule. Mais justement, et c'est là où, quand j'ai commencé à réfléchir à cette question, je ne peux pas y répondre. Parce que l'éthologie fait preuve de ce qu'on appelle un spécisme. C'est elle va privilégier l'étude de certaines espèces par rapport à d'autres. Et malheureusement, on parle plus souvent des dindes de Noël dans nos menus du réveillon que dans la capacité à mémoriser, à apprendre, à socialiser. Or, ces animaux-là sont capables d'apprendre, de socialiser, de mémoriser. Donc, si je me mets à la place de la dinde, à ce moment très particulier de Noël, je pense qu'elle voit disparaître ses congénères au fur et à mesure. Il est fort probable, comme d'autres animaux, elle ait aussi ce sentiment d'absence, de perte, et peut-être de deuil, comme d'autres animaux.
Donc en tout cas, si vous ne pouvez pas répondre à la question, ça n'est pas parce qu'on sait que la dinde n'est pas en mesure de se projeter dans son environnement, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de recherche autour de cet animal, et peut-être d'ailleurs, pour élargir, autour des animaux d'élevage, c'est-à-dire de ceux qui se retrouvent dans nos assiettes, Fabienne Delfour.
C'est tout à fait ça. En fait, la considération de l'animal n'est pas équitable et égalitaire. On va considérer des animaux en particulier, spécifiquement, en général ce sont des grands mammifères, et on va déconsidérer d'autres, et c'est vrai que les animaux d'élevage sont déconsidérés quand on parle de conditions animales. Après, je pense que c'est aussi plus confortable de ne pas trop penser à ce que pourraient penser ces animaux qu'on consomme. Oublier que la dinde peut avoir des émotions, c'est plus facile après de la consommer.
Laurent Chauveau, cette moindre considération dont nous parle Fabienne Delfour à l'égard des animaux d'élevage, est-ce que par exemple pour les mollusques, c'est quelque chose que vous constatez aussi dans vos recherches? Pour faire des recherches, il faut avoir des moyens de les faire, d'autant comme vous le racontiez tout à l'heure, vous avez plongé dans de nombreux endroits du globe. Est-ce que c'est facile d'obtenir des crédits pour ces espèces animales-là?
Alors clairement, il est mille fois plus facile d'obtenir des crédits pour des espèces à intérêt commercial. Ça reste une vraie difficulté, même si le CNRS offre encore des libertés incroyables pour étudier la biodiversité et des invertébrés qui doivent intéresser 2 personnes sur la planète. Faut pas cracher dans la soupe, le CNRS et les universités autorisent quand même encore ça, mais effectivement, obtenir des crédits reste une difficulté pour tous les scientifiques de notre pays. Maintenant, pour revenir et rebondir, je crois que j'ai vécu, ou ma famille a vécu, ce qu'a vécu la France. Mes grands-parents étaient agriculteurs, mon père une partie de sa vie, puis plus du tout, et je finis à l'université au CNRS. Ouais, je crois que voilà, cette filiation-là raconte ce qui s'est passé les 60 dernières années en France. Et je me souviens d'un grand-père qui élevait des moutons ou élevait des animaux et avait une considération pas possible pour ces animaux. Ça voulait dire qu'ils étaient abattus in fine au bout de 2 ans ou 3 ans pour un mouton, mais la relation à l'animal était incroyablement bienveillante. Hein. Et j'ai jamais vu mon grand-père frapper un animal ou le priver de nourriture. Il y avait une relation où j'ai des difficultés, moi, avec ce que... C'est pas parce qu'on le mange que on doit le maltraiter, et c'est pas parce qu'on le mange que ces animaux sont maltraités, ou même dans notre culture bien franchouillarde, que c'était comme ça par le passé. Il y a un petit côté peut-être nouveau dans cette relation. Bon, bref. Alors pour les mollusques, oui, on a besoin pour étudier ces mollusques d'en prélever. Faut pas cacher ça. Parfois de les disséquer, parfois. Bon, je sais pas comment dire ça. Il y a quelques endroits où on fait ça vraiment avec une parcimonie pas possible. C'est le cas à l'issue de nos plongées polaires sous la glace. On ramène pas des milliers de pétonques. C'est vraiment quelques individus prélevés, déclarés comme étant prélevés et ramenés en France et bancarisés. Et on essaye de mutualiser au maximum ces animaux qu'on a prélevés.
Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit de la considération de votre grand-père pour ces moutons. À l'époque, je ne sais pas si la connaissance scientifique d'ailleurs sur les moutons a beaucoup progressé, mais en tout cas, il n'y avait pas forcément peut-être de la part des paysans une connaissance scientifique fine de ce que c'est qu'un mouton. Est-ce que pour vous, Fabienne Delfour, c'est totalement corrélé, c'est-à-dire le fait que plus on connaît scientifiquement les animaux, plus on va avoir de la considération pour eux, ou bien ça dépend peut-être aussi des espèces animales?
Alors, la considération de l'autre, ça peut passer par plusieurs voies d'accès. Ça peut passer par l'amour. On peut s'intéresser à une espèce animale parce qu'on adore, on aime cette espèce-là. Mais en contrepartie, on sait que souvent, bien souvent, on fait beaucoup d'erreurs. Par amour, on peut se tromper. Ça peut être aussi des passions pour certaines espèces, etc. Maintenant, vraiment, je pense que ce qu'il faut adopter, c'est une démarche qui est raisonnable, pour, in fine, arriver à le protéger, non seulement pour qui il est, pas pour ce qu'on imagine que cet animal peut représenter. Donc, cette raison, cette démarche raisonnable passe pour moi par une démarche scientifique. Parce que la démarche scientifique permet de tester des hypothèses, de les valider, de les invalider. Mais aussi, la beauté de la science, c'est qu'elle se nourrit de doutes, pas de certitudes. Et elle est réfutable, contrairement à des opinions qui sont là, posées et qui sont basées sur et nourries de croyances. Donc la connaissance, au travers d'une démarche scientifique, permet de construire un raisonnement basé sur des théories et donc d'avoir une démarche qu'on peut partager aussi. Parce que l'idée, c'est ça aussi, c'est de faire comprendre aux autres qui sont ces animaux-là. Donc, selon moi, effectivement, plus on va connaître l'animal, comprendre qui il est, mieux on sera à même de prendre les mesures qui sont les plus pertinentes, efficaces, adéquates pour protéger ces animaux-là.
Vous avez parlé d'amour. Alors prenons un exemple d'un animal que les gens adorent, hein, qu'il soit enfant ou adulte, c'est le dauphin. Alors c'est un animal que vous connaissez bien, parce que vous travaillez notamment avec des delphinariums, c'est-à-dire des endroits où on montre des dauphins. Et vous évoquez dans votre livre « Que pensent les dindes de Noël » le cas des suicides de dauphins. Enfin, suicide, peut-être pas justement. C'est-à-dire que peut-être parfois, un amour pour un animal, qui peut être tout à fait légitime, n'est pas forcément la meilleure façon de comprendre ce qu'ils font. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi ce qui nous semble être peut-être parfois des suicides de dauphins n'en sont pas du tout.
Alors tout d'abord, imaginez ce que l'animal peut ressentir, éprouver. Ça passe aussi par le décryptage de sa gestualité, de sa corporalité, etc. Alors ça va être plus facile pour moi de comprendre ce que peut penser un chimpanzé, parce qu'on a des attributs, on a des actions qui sont assez proches et similaires. Se mettre à la place d'un dauphin, c'est déjà un peu plus compliqué, de par son écologie, parce qu'il vit dans un environnement qui nous est totalement inconnu ou difficilement appréhendable. Il a aussi une anatomie qui est très particulière. Il a un rictus sur la face qui lui fait toujours sourire. Dans l'imaginaire collectif, c'est un animal qui est toujours sociable, qui est joueur et qui est intelligent. Et parfois, effectivement, il arrive que ces animaux aient été filmés ou vus s'échouer sur les plages des delphinariums. Et souvent, de manière assez rapide, les personnes interprètent cet acte comme un suicide. Or, la peau des dauphins se renouvelle de manière très, très fréquente et il a besoin de se gratter. Et en fait, s'échouer, c'est pas se suicider, mais c'est se gratter sur une surface qui est rugueuse. Parce que le dauphin n'a pas de membre qui lui permet de se gratter sur toute la surface de son corps, donc il a besoin d'avoir un support. Voilà. Donc, poser une interprétation hâtive au travers de notre vision très anthropocentrique nous amène parfois à commettre ce type de mauvaise interprétation de ce que réalise l'animal là sur le moment.
Cette connaissance scientifique sur les animaux qui permet de mieux les comprendre et peut-être aussi de mieux les protéger, est-ce qu'elle peut pas aussi avoir un aspect plus utilitariste ? Qu'on peut justifier d'ailleurs ou pas, mais est-ce qu'une partie de la connaissance scientifique sur le monde animal n'est pas liée au fait qu'on veut essayer de voir en quoi l'animal va pouvoir nous être utile à nous, les humains, Fabienne Delfour?
Oui, peut-être, mais bon, ça fait une partie de notre panel de relations avec le vivant. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait partie de ce système vivant. On est dans un réseau, on n'est pas au sommet d'une pyramide avec l'être abouti, parfait, étant l'humain. Donc, peut-être effectivement qu'il y a ça, mais aussi il y a la possibilité de créer de nouvelles relations avec ce vivant. Donc, mieux comprendre qui il est, c'est aussi peut-être construire des espaces où il y aura des... je suis assez peut-être naïve, mais imaginez qu'il y aura des espaces où hommes et animaux pourront vivre ensemble, cohabiter ensemble. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, et comme vous le disiez, c'est l'anthropisation du milieu, elle est là. Même dans nos océans, c'est difficile de ne pas entendre l'humain, même au fin fond des océans. Parce qu'il y a le bruit des moteurs, il y a le bruit des plaisanciers qui sont là, etc. Donc, quelle est la place aujourd'hui de l'animal dans ce monde-là? Donc, si on ne fait pas cet effort-là, d'essayer de comprendre quels sont ses besoins, comment on peut vivre en bonne intelligence, je ne vois pas comment on va trouver, nous aussi, notre pérennité dans ce système-là.
Ça, c'est vrai. Et moi, j'adhère complètement à ça. Maintenant, en termes de services rendus par les animaux, et on peut élargir un petit peu par la nature. Si on réfléchit aux biens et services que la nature peut rendre à l'humanité, il y a une publication à lire qui est celle de Constanza en 97. Un groupe d'économistes américains a chiffré combien la nature nous rapportait en termes de biens et services à l'échelle de la planète. Et maintenant, si vous faites à la lecture de nos deux livres l'analyse de ça et vous faites une analyse critique, vous vous apercevez que les biens et services rendus par les animaux à l'humanité sont extrêmement dépendants de notre niveau de connaissance sur ces mêmes animaux et sur cette même nature. La coquille Saint-Jacques, là, était un plat festif. Elle avait une valeur parce qu'on pouvait la vendre à Noël pour qu'elle finisse dans notre assiette. Elle devient un thermomètre et un témoignage de ce qui s'est passé depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui. La valeur devient infinie. Et les raisons pour lesquelles vous la protégiez sont obsolètes. Vous étiez en train de protéger le plat Noël, le plat des Français à Noël, et ça devient un outil scientifique d'une puissance rare. Vous voyez que notre dépendance vis-à-vis de la connaissance pour justifier la préservation d'une espèce et ou d'un écosystème, ça, ces raisons-là, elles sont dépendantes de la recherche, dépendantes de notre niveau de connaissance, dépendantes de notre culture, de décisions qui dépassent complètement la nature, et donc elles sont fausses. Elles sont pas bonnes, ces raisons-là. Il faut dépasser ça et dire maintenant, les raisons pour lesquelles on doit protéger la nature sont les mêmes que les raisons pour lesquelles on laisse la Joconde au sein du Louvre.
Mais est-ce que ça veut dire que vous trouvez que c'est une bonne idée de donner une valeur financière aux écosystèmes? Et vous, Laurent Chauveau, et vous, Fabienne Delfour, parce que je me dis, certes, ça va peut-être permettre de mieux protéger certaines espèces, mais s'il y en a dont on découvre que le repas de service particulier, tant pis, on ne les protège plus.
Vous voyez bien que ça ne va pas, ça ne tient pas la route. Rapidement, vous pouvez déstructurer ce raisonnement. C'est une fausse bonne idée. Ouais. Évidemment, tout le monde la comprend immédiatement, mais si vous déplacez notre culture et vous dites demain matin, on a décidé de plus manger de coquilles Saint-Jacques pour une raison religieuse ou une raison que j'ai pas encore inventée et qui sera absurde de toute façon. Si pour les raisons pour lesquelles vous mangez plus cette coquille Saint-Jacques, vous perdez la raison pour laquelle vous la protégez. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette dépendance vis-à-vis de vos raisons, soit culturelles, soit financières, et surtout financières, elles sont pas en adéquation avec la durée. Quand vous protégez une espèce, vous devez vous placer dans la durée. Vous devez avoir une raison pérenne de le faire. Or, ça, on a des grandes difficultés. Elles sont surtout pas financières.
Oui, tout à fait. Et je voudrais aussi m'éloigner de ça. Je pense que quand vous me demandiez à quoi nous sert la nature et les animaux, j'ai beaucoup aimé dans la première partie, vous parliez d'esthétisme et de poésie, et je trouve la nature extrêmement esthétique et poétique. Donc il y a aussi une ouverture là qui est indéniable, donc ne plus avoir accès à cette nature-là, c'est aussi se priver de cette magie de la nature, de cette créativité, de cet esthétisme, de cette beauté.
Je ne vais pas forcément revenir justement sur cette démarche, sur cette approche utilitariste, ni peut-être d'ailleurs sur l'esthétique, mais je reviens alors sur la notion d'intelligence. Vous disiez tout à l'heure, Fabienne Delfour, il faut voir comment on peut vivre en bonne intelligence avec les animaux. Eh bien, on peut, ça c'est ce que moi j'ai appris en lisant votre livre « Que pensent les dindes de Noël », on peut vivre en bonne intelligence, y compris avec un animal qu'on considère comme particulièrement stupide, qui est la poule. Que la poule est capable de faire preuve d'autocontrôle. Je lis juste un petit extrait du livre. Lors d'un test donnant le choix à des poules d'attendre 2 secondes pour accéder furtivement à de la nourriture pendant 3 secondes ou d'attendre 6 secondes pour y avoir accès pendant 22 secondes, les animaux préfèrent attendre plus longtemps pour décrocher le jackpot.
Oui. Mais déjà, je dois remercier tous ces animaux qui se plient à nos expérimentations, parce que je pense que la particularité de ces protocoles, c'est qu'ils sont quand même assez fastidieux. Et donc l'animal doit être très compréhensif et assez plastique pour répondre à nos expérimentations animales. Et oui, en effet, mais c'est là aussi la beauté de la science, elle est créative elle-même. Et si on fait l'effort de poser les bonnes questions aux animaux, ils vont nous répondre. Bien sûr, évidemment. Et par ailleurs aussi, ce que je trouve important, c'est d'adapter les questions par rapport à l'espèce qu'on va étudier. Je vais poser des questions de poules à des poules, des questions de coquilles Saint-Jacques à des coquilles Saint-Jacques. Donc, être capable aussi d'avoir nous-mêmes cette plasticité-là et ne pas poser toujours les mêmes questions. Et c'est ce qui est très dommageable aussi. En éthologie, pendant très longtemps, l'éthologie s'est nourrie des travaux des primatologues. Et on a vraiment essayé d'étalonner l'intelligence animale par rapport à cette intelligence des grands singes. Ça, c'est une fausse route. Chacun doit montrer les capacités dont il est doté dans un environnement particulier. Mais imaginez que tous vont être comparés à des grands singes ou, par exemple, mesurer nos capacités à retenir notre souffle par rapport au cachalot, c'est sûr que c'est pas pertinent. Donc, avoir la possibilité de poser des questions en fonction des espèces.
Alors, ça peut être quoi, une question de poule à une poule?
Justement, ça va passer par cette connaissance. Que sont les poules? Donc, leur sociabilité, imaginer des dispositifs dans lesquels elles-mêmes se sentent à l'aise. C'est pas imaginer des dispositifs d'humains dans lesquelles on va placer des animaux dans des conditions très expérimentales et donc inconfortables pour les animaux. Bien sûr, ils vont essayer, ils vont faire le mieux qu'ils peuvent pour répondre à ces questions-là, mais on va perdre une panoplie de d'autres capacités. Si vous laissez la possibilité à l'animal de répondre, je vais vous prendre un exemple très particulier. On a monté une expérimentation au delphinarium du parc Astérix avec des otaries, et on s'est aperçu que le dispositif elle était assez souple et les otaries nous ont montré leur personnalité. Donc il y en a qui ont refusé de revenir, il y en a d'autres qui étaient plutôt dans l'appréhension du dispositif, une autre qui adorait ça, et en fonction des jours d'expérimentation, celle qui adorait ça était la première à arriver. Elle attendait, elle observait la montée du dispositif. Les autres étaient dans la retenue. Bien sûr, on les a tous fait passer par ce dispositif, mais l'animal qui est plus enclin à participer, comme par hasard, avait de meilleurs résultats dans cette expérimentation. Donc c'est ça aussi, être capable de comprendre. Je travaille avec des animaux, avec des individus qui ont des biographies, qui ont des histoires personnelles. Je ne travaille pas avec des espèces, en fait.
Mais quand vous travaillez, par exemple, Fabienne Delfour, dans un delphinarium, vous travaillez, alors, par exemple, avec des dauphins qui sont dans des conditions qui ne sont pas des conditions naturelles. Enfin, ces animaux-là ne sont pas faits pour vivre dans ce type d'environnement. Donc, est-ce que les connaissances que vous en tirez permettent vraiment de comprendre ce que sont ces animaux ?
Donc déjà, c'est pas des animaux qui ont été prélevés hier dans le milieu naturel. Ce sont des animaux qui sont reproduits depuis la troisième ou quatrième génération dans ces conditions-là. Et puis, en biologie, on sait que la nature fait preuve, et les animaux aussi, bien sûr, d'adaptation et d'accommodation. Donc, dans ces conditions-là, on va poser des questions à ces animaux-là. Ce qui n'empêche pas de comparer les résultats de ces études à des études similaires menées sur des congénères dans le milieu sauvage. Et on s'aperçoit qu'il y a bien sûr de grandes similitudes. Par exemple, la production des sons. On a des dauphins qui font de l'écolocalisation aussi bien en milieu naturel que dans ces structures-là. Donc ça reste quand même un dauphin, mais qui va s'adapter avec des situations particulières. Mais on va retrouver ça aussi dans le milieu naturel. En fonction de l'écologie, l'animal va développer certaines compétences par rapport à d'autres.
Laurent Chauveau, Fabienne Delfour évoquait alors les capacités qu'ont les différentes espèces animales. On a beaucoup parlé, en parlant de la coquille Saint-Jacques, de la façon dont elle nous renseigne sur son environnement, mais on n'a pas tellement parlé finalement de ses capacités, de ce dont est capable la coquille Saint-Jacques. Or, c'est un outil assez multiple, c'était même un couteau suisse, voilà. Je cherchais la formule que vous utilisez dans votre livre. Par exemple, le manteau, alors faut nous expliquer ce que c'est que le manteau, la coquille Saint-Jacques, et ce qu'il lui permet de faire.
Le manteau, il porte un joli nom. C'est imaginer que vous ayez un manteau sur vous et que l'extérieur de ce manteau secrète la coquille, le carbonate de calcium qui fait le squelette. Donc, première fonction de ce manteau, c'est envelopper l'animal et à l'extérieur de ce manteau, fabriquer un squelette externe qui la protège, fabriquer une boîte. Bon. Ensuite, ce manteau porte les palpes et tout ce qui permet à une coquille Saint-Jacques de goûter l'eau, ouais, passe par des tentacules et des capteurs qui la renseignent sur, notamment, je vous en ai parlé, la présence d'une étoile de mer. Bon, très bien. C'est ce manteau qui porte les yeux. Une coquille Saint-Jacques, ça a plein d'yeux, des dizaines de d'yeux, avec une structure qui est complètement hallucinante, qui n'a pas été retenue dans l'évolution, mais qui est réellement complexe. Donc, ça voit plutôt pas mal. Et c'est encore ce manteau-là qui le porte. Et ben voilà, déjà ce manteau à lui tout seul, là, il est capable essayer d'imaginer les fils qui tiennent un parapente. Vous imaginez un manteau comme ça, avec quelques fibres musculaires qui peuvent le déformer, ça vous explique comment une coquille Saint-Jacques est capable d'avaler de l'eau et puis de la recracher derrière elle, et est capable de tourner sur elle-même. Les mouvements sont liés aussi à la position de ce manteau lorsqu'elle cherche à nager ou à se mouvoir.
Est-ce qu'il y a encore une ou des choses que vous ignorez à propos de la coquille Saint-Jacques, Laurent Chauveau ?
Oui, non, mais alors là, faut surtout pas se laisser impressionner par les scientifiques qui parlent comme des livres. Il y a plein de choses à découvrir. On a toute une équipe qui travaille à Brest là-dessus, pas mal d'équipes à l'échelle de la planète qui travaillent sur ce genre, sur la famille des pectinidés. Il y a plein de choses à découvrir, oui, évidemment.
Qu'est-ce que vous aimeriez, alors, vous encore découvrir, Fabienne Delfour, à propos des animaux ? En tout cas, quelle serait, selon vous, peut-être la prochaine grande étape dans la compréhension du monde animal ?
Je pense que la compréhension de l'animal aussi se nourrit des questions de notre société humaine. Donc ça va passer bien sûr par l'étude des émotions. Donc j'ai plein de questions à poser aux animaux sur leurs émotions, sur leur communication.
Vous dites d'ailleurs dans le livre que ce que l'on demande aux animaux est souvent en lien avec les préoccupations qui sont les nôtres au moment où on les a. Alors je ne sais pas si on va faire des recherches par exemple en ce moment sur pour savoir s'il y a un système de retraite dans le monde animal, mais enfin en tout cas c'est toujours lié aussi à notre actualité, à notre époque, à nous humains, hein, Fabienne Delfour.
En fait, votre remarque est extrêmement pertinente parce que les conditions de vie des animaux dans les structures des parcs animaliers par exemple leur permettent de vivre de plus en plus longtemps. Donc on a vraiment des animaux qui sont de plus en plus vieux, et donc on a des capacités qui se dégradent, des corps qui changent, des capacités sensorielles aussi qui se modifient. Donc on a une médecine vétérinaire qui est spécialisée en gérontologie des animaux. Donc peut-être pas une retraite à points ou avec un âge pivot, etc. On n'en est pas là. Mais effectivement, considérer l'âge des animaux est extrêmement important.
Moi, je peux rebondir là-dessus parce que j'ai une anecdote qui est étonnante. Les Artica islandica, ce bivalve absolument magnifique qui vit à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui vit 500 ans, interroge les médecins. Et vous trouvez des articles sur cet animal dans les journaux de gérontologie, médecine humaine, qui s'interrogent comment on fait pour réparer de l'ADN sur 500 ans et comment on fait pour pas être sénile et incontinent quand on est un mollusque.
Ben merci beaucoup à tous les deux pour cette conversation absolument passionnante. Donc je rappelle, hein, Fabienne Delfour, Que pensent les dindes de Noël ? Oser se mettre à la place de l'animal, c'est chez Tana Édition. Et puis vous, Laurent Chauveau, La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan, aux éditions des Équateurs. Merci à vous deux et joyeux Noël.